Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Pierre de Villeneuve.
Bonjour, bonjour à tous, bonjour à Catherine Deschamps, Charles Villeneuve, Michel Cotta et Gérard Carrérou.
Bonjour.
Bonjour. Un grand merci à vous tous, chers auditeurs. Vous êtes 228 000 de plus à nous écouter tous les samedis et donc plus de 605 000 à chaque épisode des Grandes Voix. Merci beaucoup de votre fidélité. Au sommaire, sauf qui peut, Emmanuel Macron se serait bien passé de ça. Une crise de l'école par-dessus la crise sanitaire. Le sandwich jambon et fromage passe mal à 80 jours de la présidentielle. Les profs et les parents d'élèves dans la rue en mode ras-le-bol, double dose et même triple quand on apprend que le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a alpagué son collègue Covidé Véran pour ne pas l'avoir plus soutenu. Une fois de plus, Macron a dû jouer les pompiers de service, distribution de masques, tarifs plafonnés de l'électricité, propulsant même sa femme pour défendre son bilan. Emmanuel parle très cash, a tenté d'apaiser la première dame. Alors le président est-il à jamais un incompris ou alors irrévérence qui finira par lui coûter cher? Et si finalement la bonne nouvelle ne venait pas du Covid, si l'Institut Pasteur est inquiet pour l'hôpital, il l'est moins pour le variant du moment. Omicron pourrait atteindre son pic de contagiosité d'ici la fin du mois et donc laisser place à une sorte d'immunité collective, reléguant le virus en maladie saisonnière comme la grippe, écartant de facto l'hypothèse d'une nouvelle dose de rappel. Là aussi, quel impact sur la campagne présidentielle? À gauche comme à droite, on rentre dans une sale guerre et quelques esprits éclairés espèrent qu'elle ne sera pas fratricide. Après la déshérence de Guillaume Pelletier, c'est bouclier ouvert entre LR et le camp Zemmour. C'est à se demander si Pelletier n'avait pas raison de prophétiser sur Europe 1 le ralliement de plusieurs LR vers Reconquête. Pendant ce temps à gauche, Christiane Taubira est bien candidate à la primaire et elle risque peut-être de la gagner, ce qui désingrait Montebourg et Hidalgo. Faut-il s'attendre à une campagne présidentielle sans la gauche? Vous avez le programme, le débat des grandes voix, c'est parti. Comme le disait Jacques Chirac, les emmerdes, ça vole toujours en escadrille. Alors si la crise sanitaire ne suffisait pas, il a fallu une crise de l'école arrivant de facto avec le Covid, test à jour 0, à plus 2, à plus 4, puis finalement assoupli, file d'attente en labo, en pharmacie, pénurie d'autotests pourtant promis, tout le monde perd ses nerfs. Profs et parents d'élèves en cortège jeudi, avec un Mélenchon traitant Blanquer de bon à rien et le ministre de l'Éducation lui-même accrochant vivement son collègue Véran avant le Conseil des ministres. Tout cela fait un peu désordre à 85 jours de la présidentielle.
Oui, ça fait un peu désordre. Ça fait un peu désordre et c'est surtout quelque chose qui ennuie le chef de l'État pour la raison suivante. Je vous disais la semaine dernière, je ne vais pas le répéter dans le détail, que tout était de sa part, la stratégie était 1, le Covid, 2, le Covid, 3, le Covid. C'est un peu comme pour le cochon, vous avez dit, tout est bon dans le cochon, et je dirais dans le Covid, tout est bon pour gagner l'élection. Bon. Et tout ce qui vient se mettre quelque part comme un caillou dans la chaussure pour empêcher que cette stratégie se développe sur les 3 mois qui viennent et qui permettent au chef de l'État sortant d'être réélu, et évidemment, il faut tout de suite intervenir. Comme les pompiers, la brigade d'urgence intervient. C'est le cas pour les enseignants. Vous avez vu quand même avec laquelle rapidité, après la grève, qui a été suivie, très suivie, le Premier ministre, le ministre, tout le monde, hop, on est monté avec le carnet de chèques, avec les 5 millions de masques FFP2, avec les 8 000 embauches, etc. Et je dirais, il y a d'autres cas. Je cite celui-là parce que c'est celui que vous m'avez soumis, mais je pourrais dire, regardez l'électricité. Mmh. Tout d'un coup, incroyable, on a effectivement, oui, mais on a effectivement, je m'arrête là, Michel, sois rassuré, mais je veux dire simplement que tout ce qui se met dans le travers de la stratégie Covid and Covid and Covid, c'est bon pour, effectivement pour intervenir tout de suite.
Eh bien, Michel Cotta, puisque été interpellé.
Moi, je ne crois pas à la stratégie Covid et Covid en se disant que c'est un argument absolument, mais je l'avais dit d'ailleurs, c'est un argument formidable, mais c'est un argument qui peut se retourner. Et on voit à tout moment que c'est un argument qui peut se retourner, la preuve. La preuve, c'est que je pense quand même que, grosso modo, Macron se serait bien passé de cette pandémie. Alors, est-ce que le mouvement des professeurs... Au fond, la première réaction qu'on a eue tous devant le mouvement des professeurs, c'est peut-être pas eux en ce moment, quand on voit les hôpitaux, etc., se mettre en quatre, c'est peut-être pas eux... Mais il faut dire que c'est horriblement compliqué, quand même, quand on a vu...
Le protocole.
Le protocole, d'abord, il change tout le temps. Je conçois qu'il change quand on passe de 3 000, de 20 000 infections à 300 000. Hein, je veux dire, je comprends qu'il change. Mais enfin, c'est vrai que pour les gens, pour personne, ça n'est agréable. Et c'est encore moins agréable pour les politiques qui ont à manœuvrer ça. Et Blanquer s'en est bien aperçu. Il n'a plus que 3 mois devant lui avant l'élection, évidemment. Mais d'une certaine façon, on peut dire heureusement.
Catherine Ney.
Moi, je trouve qu'évidemment, le président le Covid sert le président à anesthésier le reste du pays. Mais c'est vrai, dès qu'un problème peut se présenter, aussitôt on colmate. Hein, l'essence augmente, hop, vite, un chèque de 100 euros. Là, l'électricité qui augmente, vite, on est en train de tuer EDF en lui imposant cette augmentation réduite à 4%, alors qu'elle aurait dû, normalement, augmenter de 44%, ce qui est évidemment
important. Oui, 35, disait Bruno Le Maire. Voilà. Oui.
Mais ce qui est terrible, vous voyez, que moi, ça ne me choque pas, après tout, qu'après la crise, la journée de grève des enseignants, des parents, qui d'ailleurs ne veulent pas tous la même chose. Hein. Les enseignants, ils voudraient plutôt qu'on ferme les écoles et les parents, pas du tout. Il faut quand même voir les choses telles qu'elles sont. Mais là, qu'on engage, qu'on commande 5 millions de masques, quelques 3 000 contractuels soient recrutés, ce n'est pas ça qui me choque. Moi, ce qui me choque, et je regrette de le dire, c'est que dans l'accusation que l'on fait à Blanquer, et bon, qui est un bon ministre, qui a essayé de lancer cette réforme du lycée, et puis le bac, bon, et qui va, et en ce moment, évidemment, avec le Covid, ça freine tout. Moi, je pense qu'il est lâché par Macron sur deux choses qui m'ennuient. C'est qu'à la fois, Blanquer dit qu'il faut retrouver pour l'autorité des professeurs. Et lui, il a dit non, il s'agit de redonner du sens à la profession d'enseignant. Ce n'est pas la même chose. En tous les cas, il critique son ministre. Mais surtout, alors que Jean-Michel Blanquer avait fustigé la gangrène de l'islamo-gauchisme qui règne dans l'université, qui est un vrai problème, et on en a parlé aujourd'hui, eh bien lui, Macron dit aujourd'hui, à ses yeux, il revient aux universités d'éclairer le monde tel qu'il est. De défendre nos universités, c'est défendre une autorité scientifique et académique sans laquelle il n'y a ni savoir ni transmission de savoir. Alors qu'il y a, en juin 2020, contre les sciences sociales, qu'il avait rendu coupable d'avoir cassé la France en deux en encourageant l'ethnisation de la question sociale. Donc il est revenu sur sa propre position pour dire « alors pas d'histoire avec les universités ». Pas d'histoire avec les professeurs. Et ça, c'est un renoncement idéologique que je trouve très grave. Beaucoup plus grave que de donner de l'argent. Voilà.
Charles Villeneuve.
Oui, moi, je constate, si vous voulez, que tout ce qui rogne le pouvoir d'achat et entrave la vie des familles, l'école et la santé, ont recentré en une semaine l'actualité sur les questions sociales. Et les questions sociales, le président de la République les craint, manifestement. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, sa phrase, je ne sais pas si elle est devenue culte, « emmerder les non-vaccinés », finalement, avait imposé un seul thème de débat. En cela, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit tout à l'heure Gérard. C'est-à-dire que tout tournait autour du sanitaire. Ça ne veut pas dire qu'il voulait que tout tourne autour du sanitaire. Mais évidemment, l'opinion publique, les électeurs, sont préoccupés uniquement.
On parle de ça.
Et nous le sommes d'ailleurs. Ouais. Aussi, autour de cette table, par finalement ce Omicron aujourd'hui, Delta hier, maintenant c'est Delta-cron, enfin on ne sait pas si ça peut arriver, etc. etc. Et d'ailleurs, ce contre-pied, ça a pris à contre-pied toute la meute gouvernementale, qui a trouvé un bouc émissaire au sein même du gouvernement, d'ailleurs. C'est Blanquer, Jean-Michel Blanquer, et c'est la raison pour laquelle vous avez souligner tout à l'heure l'altercation, en quelque sorte, avant le Conseil des ministres, entre le ministre de l'Éducation nationale et le ministre de la Santé. Trop facile de tomber sur son rable, parce que finalement, Pécresse avait raison. Il fallait plutôt alléger, réfléchir à la procédure des tests et faciliter ces tests. Vous savez, les gosses, moi je vais juste finir en vous racontant une scène. Comme beaucoup, évidemment, on a amené nos petits-enfants ou nos enfants à la pharmacie lundi matin dernier. Il y avait la queue incroyable avec tous les gosses de 7 à 10 ans, etc. Et les pharmaciens, deux pharmaciens qui étaient dehors et qui traitaient les enfants, qui essayaient de les convaincre de toute façon de mettre dans leur nez les couvillons jusqu'à finalement la paroi nasale. Les gosses pleuraient. Eh bien, les deux pharmaciens se sont mis à pleurer à la fin. Parce qu'ils n'en pouvaient plus. Et ça, c'était quoi ? La mauvaise préparation, le mauvais calcul de précipiter les tests et de mettre tous les gosses, de toute façon, à l'esprit noir de ces tests-là. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle, fissa, comme on dit, c'est-à-dire rapidement, il a fallu distribuer d'abord au syndicat des enseignants un certain nombre de cadeaux qu'on leur refusait depuis je ne sais combien de temps, hein, et puis modifier complètement la procédure nasopharyngée.
Alors, on va marquer une pause et on revient juste après avec les grandes voix.
Les grandes voix d'Europe 1. Pierre de Villeneuve.
Les grandes voix d'Europe 1 que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter tous les samedis. Et on vous en remercie, Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, Catherine Ney et Michel Cotta. Sauver le soldat Blanquer, c'est la mission des grandes voix ce matin, Michel Cotta.
Non, je ne suis pas sûr que ce soit précisément. Ce que je veux dire,
non, c'est
que
vrai qu'il est pointé
ça ne
du
date
doigt.
Pas d'hier, ouais. Ça ne date pas d'hier, les problèmes de Blanquer avec l'éducation nationale. Tout le monde, tous les syndicats, parce que c'est en réalité...
Mais Michel, excuse-moi de t'interrompre, mais quel est le ministre qui n'a pas eu affaire avec les syndicats d'enseignants ou même son administration ?
Mais il faut dire, dans une situation très compliquée.
J'en connais un.
Dans une situation très compliquée.
Qui, maintenant, dites-le.
C'est François Bayrou qui, pour ne pas avoir de problème avec les syndicats, co-digérait avec le SNESUP. Et c'était Mme Boya qui faisait la pluie et le beau temps. Comme ça, il a été tranquille, pas de grève.
Internet fini, parenthèse, Michel Cotta.
Ce que je veux dire, c'est que quand même, depuis longtemps, Blanquer est sous le feu des critiques de la part des syndicats.
Donc, sur le bac,
c'est vrai
les APB,
que donc, sa position est particulièrement fragilisée. Bon. Deuxièmement, ce que je veux dire, c'est que quand on a effectivement des gens comme des enseignants qui souhaiteraient ne pas ouvrir l'école, et Catherine l'a très bien dit, des parents qui veulent au contraire l'ouvrir, dans une phase où il y a 400 000 contaminations par jour, ça pose un problème à n'importe qui. Voilà, alors c'est Blanquer qui prend, c'est lui qui fait ses excuses. Et c'est lui surtout, je vous rappelle que ça a révélé quand même le rôle, on parle de Véran, mais ça a révélé le rôle de Castex, parce que à qui les syndicats ont demandé d'aller discuter, c'est Castex. Et qu'est-ce qui a réussi finalement sa négociation, puisque tout le monde est sorti en étant pas trop contre, c'est Castex aussi. Je trouve que c'est sans doute important dans le rôle de Castex qu'on a tendance à minimiser ou à ramener au rôle d'intendant. Voilà, donc c'est pas une défense de Blanquer, mais tout de même, je ne voudrais pas être à sa place. Et c'est un peu facile quand on est assis sur des fauteuils.
Il faut raison garder.
Voilà. C'est un peu facile pour nous de dire « Ah, finalement, peut-être qu'il aurait dû faire mieux ».
Oui, mais il y a quand même aussi le rôle du président de la République dans cette affaire, qui n'est pas négligeable. Ben oui, on a la même idée, Gérard. Mais, pardon,
les grands esprits se rencontrent.
Mais non, mais oui, parce que et la preuve que son rôle n'a pas été... finalement formidablement positif, c'est qu'il envoie qui ? Le pompier de service, le meilleur pompier de service qu'il ait à sa disposition à l'Élysée.
Brigitte Macron.
Ah mais ça, on y viendra. Bon, alors, on va y en parler.
Alors, j'allais y venir.
Gérard Carrérou.
Comme j'avais la parole et que j'allais y venir, je vais donc prendre le train en marche. Mais je voudrais dire simplement,
attention à la marche.
Ce qu'a dit Michel est juste. Je n'y m'attarde pas. Ce qu'avait dit Catherine était aussi et également très juste sur, effectivement, le crime de Blanquer, le crime absolu, eu égard à une certaine forme d'intelligentsia à l'université française et dans les milieux enseignants français, c'est d'avoir dénoncé, et depuis le début, sous des formes intelligentes, une forme de pénétration et de gangrène de l'islamo-gauchisme à l'université. Et ça, à Blanquer, je pense qu'on ne lui pardonnera jamais, dans certains milieux, d'avoir été comme ça.
C'est
et le président...
C'est qui on ne lui pardonnera jamais.
Ces milieux-là, parce que c'est le seul rempart, petit
donc
rempart.
Les enseignants...
À lui qu'on demande de faire des excuses, ce qui est le paradoxe absolu. Et le président, dans cette affaire-là, est encore dans le en même temps. Et comme l'a dit fort justement Charles, et j'allais évidemment venir à mon deuxième point, pourquoi Mme Macron est-elle intervenue dans le débat à ce moment ? Alors, il y avait bien sûr une opportunité très importante, il y avait les pièces jaunes. Et je salue le rôle des pièces jaunes. Mais ce n'est pas pour ça qu'elle est allée chez RTL pour parler pendant une demi-heure. Elle est allée parce qu'il y avait une nécessité stratégique d'arrondir un petit peu la parole du président qui avait été marquée, qui infusait depuis une semaine sur l'histoire des emmerdeurs. L'emmerder. Oui. Et à partir de là, qu'est-ce que c'est que Mme Macron dans la hiérarchie du pouvoir macronien ? C'est la femme intelligente, fine, modeste et en même temps qui, on sait qu'elle a un rôle d'influence et on sait qu'elle elle trouve tout le monde. Elle a été prof, elle sait que les candidats sont tous très bien, dit-elle à l'élection. On sait que l'élection est terrible. Elle a des expressions bien étudiées et qui font mouche aujourd'hui. Et c'est, son rôle, effectivement, a été celui d'apporter la dimension compassionnelle à un président qui s'était un petit peu embarqué à la va-vite dans une affaire qu'il était, bon, qui était partagée.
Elle a dit, il parle cash, Emmanuel Macron.
Oui, oui, non, mais quand Gérard parle des pièces jaunes, la bonne occasion, mais c'est vrai que la première dame qui n'a pas de statut, grâce aux pièces jaunes, peut être interviewée chaque année à la télévision. C'est ce que faisait Bernadette Chirac, qui, grâce aux pièces jaunes, en 2001, a annoncé la candidature de Jacques Chirac pour 2002. Vous voyez, c'est elle qui a lancé sa candidature et qui lui a fait profiter de sa popularité, qui lui a beaucoup aidé. Bon, là, Mme Macron a pris la suite de Mme Chirac aux pièces jaunes.
Grâce à Mme Chirac qui l'a lui donné.
Il a lui donné, enfin, elle, à l'époque où elle l'a prise, Mme Chirac n'était pas très bien, je pense que c'est plutôt Claude, mais enfin, il faut dire que c'est Bernadette qui l'a voulu.
C'est la famille, oui.
C'est la famille. Madame Macron est apparue l'autre jour. Écoutez, on se disait, mais chapeau l'artiste. Parce que d'abord, vous la voyez, on voit que le temps passe et n'a pas de prise sur elle. Le temps s'est arrêté. Elle était parfaite physiquement, intellectuellement. Et elle dit des choses, mais sensées. On a l'impression qu'il y a à côté du président quelqu'un qui est sensé, qui a du bon sens, qui n'essaie pas de jouer un rôle, bien que je suis sûre qu'elle en a un très fort, mais elle dit en aucune manière je n'essaie de l'influencer, de le convaincre ou de persuader. J'ai vu qu'il avait envie de se présenter, comme si elle ne le savait pas. Mais... Eh bien, il n'a pas pris sa décision, comme vous. Eh bien, voilà, je n'ai pas à intervenir. Voilà.
Alors,
c'est une décision que.
C'est à peu près pas crédible, ça, pardon. Je suis tout à fait d'accord avec l'analyse sur la personnalité.
Formidable,
Brigitte Macron, qui est tout à fait formidable. Quand elle dit « je ne suis pas au courant, je ne sais pas, je ne veux pas savoir ».
C'est une décision qui se prend toute seule.
C'est le côté le moins
mais
crédible des choses.
Mais ça fait partie de la comédie du pouvoir, ça.
Oui, tout à fait.
Oui, mais c'est bien fait.
Mais c'est bien fait.
Bah oui, mais c'est comme Bernadette qui parlait seule en disant « vous croyez que votre mari… » Oui, je pense. Vous pensez bien que… Voilà.
Mais soit dit en passant, d'ailleurs, sa parole a mis en extase un certain nombre de commentateurs. Qui l'ont montré d'ailleurs.
Mais ça fait du bien, Charles, d'admirer de temps en temps.
Et puis c'était chez Pascal Praud quand même. Pascal Praud.
Parce que manifestement, elle a adouci la phrase de son mari, président, emmerder les non-vaccinés. Et rappelez-vous qu'ici, samedi dernier, nous avions dit que de toute façon, sans contournement tactique, d'éviter les angles morts comme l'immigration, comme la sécurité, comme le pouvoir d'achat dont on va parler dans quelques instants, évidemment, allait faire long feu, que c'était temporaire l'effet positif. Eh bien, nous y sommes. C'est temporaire et de toute façon, il a été rattrapé par ce côté de diviseur, cliveur.
Je veux bien qu'il soit rattrapé, mais enfin, un petit mot sur les sondages. Hein. C'est vrai qu'on ne comprend plus rien aux sondages. Ils divergent systématiquement, puisque une fois Macron à 23, une fois il est à 27.
Oui, mais bon, c'est la première fois. C'est la première fois qu'au premier tour, son score s'altère. C'est la première fois qu'il y a eu des décrochages. Alors, ils ne sont pas unanimes, de toute façon.
Bon, mais enfin,
d'accord, mais il reste qu'on parle, Emmanuel Macron comme s'il était condamné. Il ne l'est pas. Alors, il le sera peut-être une fois qu'il sera candidat. Ça, à mon avis, il y aura quand même une courbe quand il sera officiellement candidat. Mais enfin,
ce qui est arrivé à tous les
chaque fois, il y a un trou de 3-4
enfin,
points.
Il est quand même largement en tête pour le moment, avec une popularité qui n'est jamais égalée.
Non, mais rassure-toi, il est toujours en tête.
Il ne faut pas l'oublier. Oui. Voilà, on revient avec les grandes voix dans un petit instant. Restez avec nous, c'est Europe 1.